Huitième partie. Le royaume de soufre. Chapitre 58. Feu et glace. Avant la naissance de l'ère de l'exploration planétaire à la fin du XXe siècle, peu de savants croyaient que la vie pouvait exister sur un monde aussi éloigné du Soleil. Et pourtant, pendant un demi-milliard d'années, les mers cachées d'Europe avaient été au moins aussi prolifiques que celles de la Terre. Précédant l'embrasement de Jupiter, une croûte de glace avait protégé ces océans du vide qui les entouraient. Presque partout, la glace était épaisse de milliers de mètres, mais il existait des lignes de faiblesse là où elle s'était fracturée et séparée. Il y avait eu alors une brève bataille entre deux éléments implacablement hostiles, qui n'entraient en contact direct sur aucun autre monde du système solaire. La guerre entre mer et espace se terminait toujours par le même match nul. L'eau exposée bouillait et gelait simultanément et réparait son bouclier de glace. Sans l'influence de sa voisine Jupiter, Europe aurait eu ses eaux complètement solidifiées depuis longtemps. Le noyau de ce petit monde était constamment travaillé par sa force de gravité. Les forces qui convulsaient Io étaient également à l'œuvre ici, mais beaucoup moins violemment. Le tir à la corde entre planète et satellite provoquait continuellement des séismes sous-marins et des avalanches qui balayaient à une vitesse inconcevable les plaines abyssales. D'innombrables oasis étaient disséminées à travers ces plaines, chacune s'étendant sur quelques centaines de mètres autour d'une corne d'abondance d'eau minérale jaillissant de l'intérieur. En déposant leurs produits chimiques dans une masse enchevêtrée de tuyaux et de cheminées, elles créaient parfois des caricatures naturelles de châteaux ou de cathédrales gothiques en ruine, d'où des liquides noirs brûlants suintaient en palpitant d'un rythme lent, comme convulsés par les battements d'un cœur puissant. Et, comme le sang, ils étaient un authentique signe de vie. Les fluides bouillants repoussaient le froid mortel tombant du ciel et formaient des îles de chaleur sur le fond de la mer. Et, ce qui avait plus d'importance encore, ils amenaient de l'intérieur d'Europe toute la chimie de la vie. Là, dans un environnement qui eût été autrement totalement hostile, il y avait de l'énergie et de l'alimentation en abondance. De tels évents géothermiques avaient été découverts dans les océans de la Terre au cours de la même décennie qui avait donné à l'humanité son premier aperçu des satellites galiléens. Dans les zones tropicales, voisines des évents, proliféraient des myriades de créatures délicates, arachnéennes, analogues à des plantes mais capables de mouvement. Des limaces et des vers singuliers rampaient parmi elles, certains se nourrissant des plantes, d'autres trouvant directement leur alimentation dans les eaux minérales autour d'eux. À de plus grandes distances de ces sources de chaleur, le feu sous-marin auquel toutes ces créatures se chauffaient, vivaient des organismes plus résistants, plus robustes, assez semblables aux crabes et aux tourteaux. Des armées de biologistes auraient pu passer des années à étudier une seule petite oasis. Contrairement aux mers terrestres du Paléozoïque, l'océan caché d'Europe n'était pas un environnement stable, alors l'évolution y avait progressé rapidement, en produisant une multitude de formes fantastiques qui toutes étaient en sursis. Tôt ou tard, chaque fontaine de vie s'affaiblirait et se tarirait, tandis que les forces qui la créaient porteraient leur intérêt ailleurs. L'abysse était jonché d'épreuves de ces drames, de cimetières de squelettes et de restes incrustés de minerais, là où des chapitres entiers avaient été rayés du livre de la vie. Il y avait d'énormes coquillages, ressemblant à des trompettes plus grandes qu'un homme. Il y avait des clames de diverses forces, bivalves et même trivalves. Et puis, il y avait des motifs de pierres en spirale de plusieurs mètres de large, qui semblaient les répliques exactes des belles ammonites qui ont si mystérieusement disparu des océans de la Terre à la fin du Crétacé. Dans de nombreux endroits, des feux brûlaient au fond de l'abysse, alors que des fleuves de laves incandescentes coulaient sur des dizaines de kilomètres dans des vallées englouties. À cette profondeur, la pression était telle que l'eau en contact avec le magma rougi à blanc ne pouvait se transformer en vapeur, et les deux liquides coexistaient dans une espèce de paix armée. Ici, sur un autre monde et avec des acteurs étrangers, quelque chose de semblable à l'histoire de l'Égypte antique s'était déroulé bien avant la venue de l'homme. De même que le Nil avait pris naissance dans un étroit ruban de désert, ainsi ces fleuves de chaleur avaient donné la vie aux profondeurs européennes. le long de leurs bords, sur des bandes rarement plus larges qu'un kilomètre, des espèces s'étaient succédées qui avaient évolué, étaient devenues florissantes et avaient disparu. Et certaines avaient laissé des monuments, sous forme de rochers entassés les uns sur les autres, ou de curieuses formations de tranchées creusées dans le fond de la mer. Dans ces étroites bandes fertiles, dans les déserts des profondeurs, des cultures et des civilisations primitives étaient nées, étaient mortes. Et le reste de leur monde n'en avait jamais rien su, car toutes ces oasis de chaleur étaient aussi isolées les unes des autres que les planètes elles-mêmes. Les créatures qui lézardaient à la douceur du fleuve de lave, qui se nourrissaient là, ne pouvaient traverser le désert hostile séparant leurs îles isolées. Si jamais elles avaient produit des historiens et des philosophes, chaque culture aurait été convaincue d'être absolument seule dans l'univers. Et chacune était condamnée. Non seulement ses sources d'énergie étaient sporadiques et constamment changeantes, mais les forces des marées qui les animaient faiblissaient régulièrement. Même s'ils évoluaient jusqu'à la véritable intelligence, les Européens devaient périr dans la glaciation finale de leur monde. Ils étaient prisonniers entre le feu et la glace, et le restèrent jusqu'à ce que Lucifer explose dans leur ciel et ouvre leur univers. Et une immense forme rectangulaire, aussi noire que la nuit, se matérialisa près de la côte d'un continent nouveau-né.